Pop, popienne, popopien et tous les autres aussi, bonjour. Tout dans la vie est affaire de traduction. Comment traduire ce que nous ressentons, ce que nous éprouvons? Comment dissiper le malentendu possible entre ce que nous disons et ce que l'autre perçoit? Par exemple, si en recevant aujourd'hui Irvin Welsh, je m'exclame « Oh my God !» comme le font ces cons d'Américains pour un oui ou pour un non, cela n'aura pas le même sens si je suis anglophone ou français. Pour un français, c'est crier « Oh, mon God !» C'est par exemple lorsqu'on retrouve son sextoy sous le sommier alors qu'on le croyait perdu. Alors que, si en face d'Irvin Welsh, un de mes auteurs préférés en ce bas monde, je réagis sous le coup de l'émotion par le même « Oh my God !», cela signifiera littéralement que j'ai l'impression d'avoir Dieu en personne en face de moi, ce qui par ailleurs a peu de chances d'arriver au mécréant que je suis. Oui, tout est affaire de traduction, et si j'insiste sur ce point, c'est parce que l'univers d'Irvin Welsh, dézingué, furibard, transgressif et tellement drôle qu'il est conseillé de le lire équipé de couches-culottes, est remarquablement accessible à un public francophone grâce à une traduction d'une virtuosité que je tiens à saluer au passage. Enfin bref, Irvin Welsh est notre invité et Pop 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 est en fête. Allez, c'est parti.
France Inter, Pop Pop Pop, Antoine de Gaulle.
Bonjour Irvin Welsh.
Bonjour Antoine.
Oh my God! Oh my God! Vous qui vivez aux États-Unis, désormais c'est une expression que vous devez entendre 100 fois par jour. Qu'est-ce qu'elle vous évoque?
It doesn't mean that much to me because I'm an atheist too.
À vrai dire, moi je suis athée aussi, donc ça évoque pas grand-chose.
I never get religious at all until I got on a long flight.
Donc, je me mets à prier Dieu bizarrement quand je suis dans un avion et qu'il y a un peu de turbulence, mais sinon je crois pas en Dieu.
I'm praying for every kind of salvation.
Voilà, je prie pour le bon Dieu que je puisse arriver à bon port en avion, mais à part ça, je suis athée.
It's usually that moment where I think I've kind of forgotten my keys or my passport.
Oh my God, je me dis ça quand j'ai perdu mes clés ou mon passeport.
Mais cette expression qui est déclinée à toutes les sauces par les Américains, ça finit par vous agacer ou vous ne l'entendez plus?
I'm just irritated by Americans
en fait,
in general.
Ce qui m'irrite, c'est les Américains d'une façon générale.
I was married to one for 13 years, so I've kind of.
J'ai épousé une Américaine. Ça a duré 13 ans. Donc, s'agissant des expressions américaines, c'est peut-être pas à moi qu'il faut poser la question. Bref, j'ai eu l'occasion d'aller dans pas mal de bars, et les gens ont du mal à me comprendre. Pourquoi? C'est comme ça. Et d'ailleurs, cette femme a eu du mal à me comprendre aussi, manifestement.
J'exagère à peine, hein, Irvin, quand je dis que vous êtes une sorte de divinité en littérature pour moi, au même titre que des Céline, des San Antonio, avec qui vous avez en commun ce génie pour faire sonner la langue parlée. Céline et Frédéric Dard expliquaient à quel point c'est un travail de chien pour arriver à ce résultat. Est-ce que vous aussi vous en bavez?
It's not really, so I'm kind of, you know, I'm a dog, but I'm a lazy dog.
Bon,
you know? So
je
don't like
travaille comme un chien, mais je suis un chien paresseux quand même.
So it does come quite easy to
les choses me viennent assez facilement tout de même.
À quel moment sentez-vous que la musique de vos personnages est juste, que c'est ni trop peu, ni trop?
I think it's, you know, you try to get a feel, you try to get a rhythm.
J'écris, j'essaye de trouver un rythme, j'essaye de bien faire passer le personnage, la musique qu'écouterait le personnage, et les aspects, les rythmes internes du personnage, le paysage culturel dans lequel le personnage a baigné. Il y a une espèce de musicalité, une espèce de poésie dans tout cela. Donc, j'essaye de puiser là-dedans. Parfois, c'est trop cuit, si je puis dire. Parfois, c'est pas assez cuit. Parfois, c'est trop peu, comme vous dites. Donc, je fais des essais. Parfois, je me plante. Je repasse, je relis, je reviens. Et il y a version après version. Et puis, au bout du compte, j'arrive à peut-être quelque chose de bien.
Alors Irvin Welsh, vous êtes à Paris à l'occasion de la sortie en poche de votre polar américain Crime, publié originellement en 2014 et quelques mois après la sortie en français du Coup du siècle, qui date lui de 2015 et qui est un roman 100% écossais. Le petit dernier arrivé chez nous, tout ça au diable Vauvert, hein, votre éditeur, c'est DMT, écrit en 2019. Mais mon cher monsieur Welsh, nous sommes en 2022, si mes comptes sont bons. Qu'est-ce que vous mijotez en ce moment ?
Quite a lot of different things.
À vrai dire, je travaille sur différentes choses.
I'm adapting,
je suis en train de travailler sur l'adaptation de mon roman qui va sortir au Royaume-Uni. C'est une série. Ça se passe au Royaume-Uni, même distribution. On travaille là-dessus. Le tournage démarre au mois d'août. Je travaille par ailleurs sur une comédie musicale de Trainspotting avec Phil McIntyre, qui a travaillé sur Will Rock You et d'autres spectacles comme ça. J'ai écrit avec Steve, nous avons écrit 14 chansons originales, donc on a fait beaucoup de nouvelles chansons, il y a des choses au début et à la fin qui existent déjà. Je voulais que ce soit une vraie comédie musicale, plutôt que simplement une pièce de théâtre avec un peu de musique, vous voyez. Donc les personnages chantent tous, ça permet de faire progresser le récit, ainsi de suite. Sinon, j'ai un autre livre qui va sortir au mois d'août. Sinon, j'ai une nouvelle, un petit roman. Là, c'est un Second Seal Club. Sinon, je travaille sur une émission de télé sur Berlin avant la chute du mur, sur un front de techno. Sinon, j'ai créé un label de disques. Ça, c'était pendant le confinement. Et on va sortir nos premiers disques bientôt. Donc là aussi, c'est avec Steve. Donc, je suis DJ, je vais faire tourner les platines en Autriche, ça c'est dimanche, je fais en Autriche dimanche. Sinon, je travaille avec Bret Easton Ellis aussi. Là, on a commencé à travailler sur un nouveau projet. Et je travaille avec Grant Morrison pour un projet aux États-Unis. Là, on en est au tout début pourtant. Et voyons voir. Bon, vous voyez, je fais quelques trucs à droite, à gauche. Alors,
moi, je posais les questions tout à fait innocemment. Et je m'attendais à une réponse du genre, bah maintenant je prends mon temps, je me repose un peu. Non, pas du tout.
Well, I'm relaxed and I kind of relax.
Je prends mon temps, oui, je travaille moins qu'avant.
Bon, avant d'aller plus loin, je vous propose d'écouter ensemble un morceau que beaucoup associent à un film tiré de votre plus célèbre roman. On va en reparler dans quelques instants. Pour l'instant, c'est Iggy Pop, Lust for Life. Nous écoutions Lust for Life, Iggy, en compagnie d'Irvine Welsh, l'immense écrivain écossais qui est notre invité aujourd'hui. Alors, le saviez-vous, mon cher Irvine, que Iggy vit comme vous à Miami? Et je voudrais savoir pourquoi la Floride exerce une telle attraction sur des artistes connus pour être aussi radicaux que Iggy Pop ou vous-même?
I think it's because...
Il y a une raison. Il me semble que nous avons puisé tant de choses en nous-mêmes, en dehors de New York, Los Angeles et Londres. C'est chouette de d'aller ailleurs, Miami par exemple. Et c'est une culture de 24 heures. Parce qu'en fait, c'est une espèce de banlieue de New York. Hein. C'est New York au soleil. Donc ça se passe toute la journée, toute la nuit à Miami. Et si vous voulez vivre dans cette espèce de bain de folie, Miami, c'est l'endroit où il faut aller. Et puis le climat. Donc, imaginez Iggy Pop dans une décapotable et qui me propose ça, de monter dans sa bagnole avec lui. Il est torse nu au long de sa caisse. Donc, vous voyez, je crois que il y a pas mal de gens comme Iggy Pop ou moi qui n'aiment pas vraiment porter des vêtements. Donc, si on peut aller à un endroit où on peut être légèrement vêtu, eh bien, c'est mieux.
Et ça explique pourquoi vous êtes en maillot de bain d'ailleurs aujourd'hui dans ce studio. Alors, j'ai un petit peu de mal à imaginer comment votre mauvais esprit, votre causticité s'accommode au mode de vie paradoxal américain où il est par exemple toujours interdit de dire le mot fuck dans les médias, et où par contre on peut acheter en vente libre un fusil mitrailleur.
Yeah, I mean, I don't know who got the best deal of that one, really, like, but...
Je sais pas. Yeah, I mean, c'est vrai que c'est un grand paradoxe.
A gun shop across the street from me in Miami.
À Miami, en face de chez moi, il y avait un armurier.
It's actually quite... It shut down a couple of years ago.
Il y a quelques années.
Surprisingly, it didn't survive lockdown. You know,
les armuriers ont mal réagi face au confinement. Tous ces psychopathes confinés, incapables d'aller devant les écoles tirer sur les gamins. Quelle tragédie économique.
That was a strange,
donc, moment bizarre.
A strange casualty of lockdown. Not a bad casualty.
Le confinement a nuit aux armuriers. Qui l'eût cru?
Yavin Welch, le monde entier vous connaît comme l'auteur de Trainspotting, un best-seller planétaire. Est-ce que vous en avez parfois marre, un peu comme ces acteurs qu'on associe toujours avec un rôle iconique qu'ils ont tenu 30 ans plus tôt?
I'm always sick and tired until kind of twice a year when the royalty statements come in.
Je marre tout le temps, sauf quand je touche les royalties et quand je m'aperçois qu'il y a des jeunes qui s'intéressent à Trainspotting. Trainspotting, j'en ai marre, mais c'est génial, on continue.
Est-ce que ça vous semble étrange d'ailleurs rétrospectivement que ce soit la littérature qui pour cette génération des années 80-90 ait fini par produire l'œuvre qui en est restée le symbole?
I don't really think about it in that way.
Je n'ai jamais pensé à ça de cette façon-là.
If you thought about the cultural impact of
si l'on regarde l'impact culturel de ce qu'on produit, ça rendrait fou. Parce que j'ai écrit pas mal de choses qui n'ont aucun impact culturel. Donc, il ne faut vraiment pas s'intéresser à ça. Il faut se consacrer à ce qu'on fait. Il ne faut pas se soucier des réactions. Il faut investir son temps dans l'œuvre que l'on fait sans se soucier de ce qui va suivre. Il faut vraiment s'impliquer dans ce qu'on fait à un moment précis. Et la réaction, franchement, il ne faut pas s'en soucier. Si ça plaît, tant mieux. Sinon, on passe au suivant, puis voilà.
Avant d'être écrivain, vous avez touché un peu à tout, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'héroïne à l'immobilier en passant par la scène punk londonienne. C'est quoi le pire vice, d'ailleurs, à vos yeux aujourd'hui? C'est l'héroïne ou l'immobilier?
Oh, I think real estate in the long run.
L'immobilier, hein. Sur le long terme, il n'y a pas de... Mais d'un court terme, je dirais l'héroïne quand même. Mais sans l'ombre d'un doute, c'est l'immobilier. Tout ce qui a trait aux chiffres, c'est mauvais pour la santé quand même. Hein. Parce qu'on vit à l'ère d'Internet. Et tout ce que l'on peut faire, c'est regarder des écrans. Et si vous avez des actions, des obligations, que sais-je encore, et si vous êtes comme Bezos ou Elon Musk, vous devez vous dire « Bon, allez, je vais aller chier, je vais au chiotte, mais pendant que je suis au chiotte, je vais regarder mon téléphone pour regarder le cours de mes actions. » Bon. Et puis, vous vous dites « Bon, on utilise le PQ, on s'essuie le cul, et puis on se dit, après ça... »
You know, if you're Jeff Bezos, you think,
tiens, Jeff Bezos, il se dit, et Elon Musk, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est au chiotte aussi? Alors vous regardez votre téléphone à nouveau pour regarder comment ça se passe pour lui.
Et vous vous dites,
alors, dans quelle résidence vais-je aller? Mon château en France? Ma maison en Grande-Bretagne? J'ai pas le nom d'ubiquité. Il y a quelque chose qui doit se passer ailleurs, dans une de mes maisons. Il faut que j'y aille vite. Donc, autrement dit, vous êtes complètement naze, quoi. Vous êtes englué dans un système, il faut se donner l'illusion de qu'on maîtrise ce qui se passe. Mais on contrôle quoi? Que dalle, c'est le système qui vous contrôle. Et même chose pour les gens qui vont nettoyer les chiottes chez vous. Sauf que le gars, lui, il n'a pas les soucis du riche qui a 200 millions de livres en action. Quoi.
Je vous sens toujours aussi remonté contre cette espèce de néolibéralisme qui nous gouverne aujourd'hui. Vous n'êtes pas calmé avec le temps, hein?
En colère,
je ne sais pas, parce que...
Une sorte de
vieux néo-marxiste, un anarcho-syndicaliste, vous voyez, devenu chauve.
Donc maintenant,
je vois ce qui est à l'œuvre avec le capitalisme, la richesse qui est de plus en plus concentrée. Et en réalité, ça n'a plus aucune signification. Il faudrait qu'on puisse avancer, aller au-delà de ça. L'important, c'est quoi? Faire l'amour dans les champs, jouer au foot, peindre des peintures, faire des peintures. Vous voyez, il faut attendre que le néolibéralisme implose. Comme ça, on pourra vivre réellement.
Eh bien, attendons ensemble. Irvine Welsh, nous allons être rejoints dans quelques instants par Charline Roux et par Denis Gallos, qui vous traduit en français pour parler notamment du coup du siècle. Ce roman récemment traduit et paru en français, Au diable Vauvert. Mais avant cela, écoutons ensemble un morceau dont le titre, je ne sais pas pourquoi, me fait penser à vous. C'est Burning Flag de Rover.
Striking hard, made my way to the earth. I'll stay. I feel like open sky. Could we ever believe it's wrong? I feed out the open minds. I will feel like you're on your own. I guess you're doing fine.
Inter. Antoine Decaune. Pop-pop-pop.
Et Charline Roux. Car oui, depuis l'Écosse de la France, c'est-à-dire la Picardie, Charline Roux nous rejoint, et avec elle, Nils Gallos, votre traducteur en français, Irvin Welsh.
Bonjour.
Le coup du siècle, Charline, c'est un roman immense, autant par la taille que par le souffle.
Accrochez-vous à vos sièges, d'une part parce que l'ouragan Baobab menace Édimbourg, c'est là qu'on vous emmène, et d'autre part, votre guide et chauffeur de taxi s'appelle Terry Lawson, et que conduire n'est qu'une de ses multiples activités, plus ou moins licite et plutôt moins d'ailleurs. Terry aka Juice, le bien nommé, est également érotomane, obsédé et bien pourvu, même quand l'ouragan fut venu. C'est au contact de trois énergumènes bien barrés qu'il va vivre des aventures plus folles que lui et découvrir un secret et une drôle de maladie. En version originale, le livre s'appelle A Decent Ride, en français Le coup du siècle. On est d'accord que là on a affaire à deux titres à double entrée.
Yeah, a decent ride is like
a decent ride.
Yeah, is always something that means like a good trip, basically.
Un voyage qui se passe bien.
A decent ride is also somebody who is kind of good in bed.
Également un bon coup. D'un point de vue sexuel.
Bien. Dinis Gallo, c'est à vous qu'incombe la lourde tâche de traduire Irvin Welsh en français. Je crois que c'est la sixième fois que vous vous y collez.
C'est ça.
C'est un exercice de haute voltige, hein, s'il en est, et dont vous vous acquittez admirablement. Je pèse mes mots. Est-ce que vous avez le sentiment, comme moi, que le Welsh est devenu une langue en soi ?
Merci déjà pour toutes ces fleurs. Et évidemment que c'est une langue en soi, c'est une vraie langue d'écrivain et qui est pas, alors qui évidemment plonge son inspiration et ses racines dans l'écossais vernaculaire et une certaine forme d'anglais, on va dire, mais matinée de Scott, c'est ce qu'on appelle le Bad Scott. Et puis c'est surtout la voix d'un écrivain et qui s'est développé, qui s'est enrichi et approfondi au long de toutes ces années.
Pour en revenir au roman, Irvin Welsh, Terry Lawson est un personnage déjà croisé dans vos précédents romans, dans Glou et forcément dans Porno. On en déduit que vous prenez constamment des nouvelles de vos créatures entre deux récits.
Yeah, I mean, it's like to me, it's like having a set of tools in a box.
Oui, c'est comme quand on bricole et qu'on a une boîte à outils. Tiens, je vais prendre cet outil-là. Bon, celui-là, il faut peut-être que je l'aiguise un peu. Donc, voilà, j'utilise les mêmes outils. Parfois, je prévois pas qu'ils vont débarquer et ils déboulent dans le roman sans crier gare. Et je me dis, ah merde, ça y est, putain, celui-là, il revient. Donc, comment je vais faire pour l'intégrer dans l'histoire? Bon, allez, il va se démerder, on va y arriver.
Dinis, on parlait d'une langue, le Welsh, hein, quand vous, à force de fréquenter ces personnages-là, ça finit par déteindre sur vous. Peut-être pas dans votre comportement, mais dans votre manière de parler.
Le pire qui me soit arrivé en 16 ans de pratique de cette profession, et ça a été dans le cadre de Love d'Irvin, et c'était avec Skyboys, en fait, qui est la prequel de Trainspotting. On parle d'un bouquin qui fait 1000 pages où on voit comment la bande de Renton est tombée dans l'héroïne. Et c'est vrai qu'après, c'est la plus longue traduction que j'ai faite, peut-être la plus complexe, celle sur laquelle j'ai pris le plus de plaisir aussi. Et à la fin, au bout de 6 mois de travail, quand j'ai rendu ma copie, j'étais en manque de Renton et sa bande, en fait. J'avais envie encore d'avoir, voilà.
Irvin Welsh, lors de votre précédent passage ici, vous étiez venu nous parler de L'artiste au couteau, dans lequel, si je ne m'abuse, on recroisera Terry. Un livre écrit en 2016, après Le coup du siècle, écrit lui en 2015. Est-ce que vous êtes obligé de faire des fiches quand vous venez assurer de la promo en France?
You do lose track of what book has come out.
C'est vrai qu'on a tendance à perdre le fil de ce qui est sorti et pas sorti et où. Parce que je voyage aussi.
It's a strange thing as well because you know you become.
C'est un peu étrange parce que.
But I think it was. I don't know who it was that said this. I think it might have been.
Shakespeare.
Martin Amis or somebody like that, or Ian McEwan.
Martin Amis, donc un écrivain anglais qui a dit que lorsqu'on fait la promo de ses livres, on devient le salarié de ce qu'on était au préalable. Donc vous avez l'écrivain que vous étiez qui a écrit un bouquin, qu'on a complètement oublié parce qu'on est en train d'écrire autre chose, et par conséquent il faut faire la promo d'un bouquin qui pour nous n'existe plus. Donc on croise les doigts et on espère que les souvenirs vont revenir au moment venu. Parfois les souvenirs ne reviennent pas et on se dit merde, c'était quoi cette histoire-là que j'ai écrite.
Une fois le filtre du temps passé, est-ce que vous identifiez, vous, c'est une question, la question que je posais à Dini il y a un instant, est-ce que vous identifiez à un de vos caractères en particulier? C'est plutôt Terry Lawson, c'est plutôt Mark Renton de Trainspotting?
It's a strange thing because you have to.
Ça aussi c'est bizarre parce que d'une certaine façon il faut s'identifier à tous les personnages quand on décrit ces personnages. Ils sont une projection d'un aspect de soi-même, aspect qu'on n'utilise pas forcément très volontiers, mais des états émotionnels. Voilà, c'est ça que j'entends par aspect des personnages, et on essaye de développer le personnage à partir de cette émotion que l'on ressent.
Give them a bit of complexity after
that. Évidemment, on rend les choses plus complexes pour que ça soit intéressant. Mais quoi qu'il en soit, oui, on s'identifie aux personnages qu'on crée et qu'on fait vivre. J'ai beaucoup appris de la part des comédiens.
When I wrote Filth, for example,
quand j'ai écrit Filth,
very kind of misogynistic, racist, kind of misanthropic character.
Personnage misogyne.
It was very tough.
Raciste. Misanthrope. C'était très difficile. Ma petite amie m'a dit, allez, casse-toi, je ne veux pas te voir à la maison. C'est une vraie raclure. Mais, donc, j'ai travaillé là-dessus, et puis j'ai regardé James McAvoy incarner le personnage. Et lui, il faisait ça très bien, et après une journée de tournage, il était encore dans son personnage, et il allait dans sa chambre d'hôtel, et moi je me suis dit, je vais jamais le revoir, ce gars-là. Et en descendant 30 minutes plus tard, eh ben, c'est qui? James McAvoy, pas le personnage du tout. Et j'ai dit, mais putain, mais comment tu fais pour changer aussi vite? Et moi, ça m'a coûté deux relations amoureuses, hein, ce livre. Et lui, il m'a dit, bah non, il faut sortir du personnage, mon gars, voilà ce qu'il m'a dit. Ce conseil, je l'ai suivi. Donc, comme les acteurs, j'arrive à sortir du personnage maintenant. Et ça s'avère plus facile pour moi. Bon, j'ai moins de relations amoureuses depuis que j'adopte cette technique, vous voyez. C'est plus facile. Une relation, c'est plus durable pour moi. Maintenant, ça dure trois mois. Avant, ça durait trois semaines. Vous voyez, gros progrès.
Guinness, ça a une influence sur votre vie amoureuse, sans être indiscret, hein, la fréquentation.
Non, mais j'ai aucun mérite parce que mon père est comédien, en fait. Donc, je connaissais cette technique. Voilà.
Et puisqu'on parle des personnages, le héros du coup du siècle, Terry, ben on est un très étonnant puisque on le disait, il est sévèrement et maladivement obsédé, mais avec une vision que je qualifierais d'assez éclairée des femmes, une forme de détestation de la porn culture actuelle. Comment est né ce contraste dans ce personnage?
This is a Juice Terry character, He's very kind of driven by sex. He's very obsessed with it.
Il est en effet obsédé par le sexe.
And it's something that he's into that mode of it determines everything he does, every move, every kind of waking, breathing day. And he's really basically kind of he's looking for a woman that's basically his equivalent.
Il cherche une version féminine de lui-même. Il a cette espèce de narcissisme, d'obsession. Vous savez, on recherche quelqu'un de similaire à soi, ou identique à soi. En fait, il veut baiser avec lui-même, en fait. Voilà. Pas facile, hein. Donc, il cherche désespérément cette version féminine de lui-même. Et puis, un jour, il va peut-être la rencontrer, ils vont être heureux ensemble, puis il y en a un qui aura une crise cardiaque. Enfin, bref, je ne sais pas ce qui va se passer.
Nous sommes en train de parler avec Irvine Welsh, du coup du siècle, son dernier roman traduit au Diable Vauvert, en compagnie de son traducteur Dinis Gallos, voilà, qui est assis avec nous dans le studio. On va continuer à parler du livre évidemment dans quelques instants, mais pour l'instant je vois que c'est l'heure des Pop News.
Bienvenue dans le futur, et pas sûr que ça fasse très envie puisqu'on est chez David Cronenberg. L'espèce humaine s'adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l'objet de transformations et de mutations nouvelles. Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Léa Seydoux, Saul Tenser, un célèbre artiste-performeur incarné par Viggo Mortensen, met en scène la métamorphose de ses organes dans des spectacles d'avant-garde. Pendant ce temps, Tim Lynn, une enquêtrice du bureau du registre national des organes, Kristen Stewart, suit de près leur pratique.
Ce n'est pas très légal.
J'ai ressenti le désir de me faire couper le visage. Vous ne voulez quand même pas tuer votre partenaire?
Il faut aller plus loin.
Ce sont des légendes. Guide-nous jusqu'au cœur des ténèbres. Sommes-nous devenus obsolètes ?
Les crimes du futur, c'est le titre. Ce sera en compétition officielle à Cannes et dans les salles le 25 mai.
Un nouveau titre signé Belle et Sébastien. Les Écossais n'avaient pas sorti d'album studio depuis 7 ans, mais le nouveau est imminent. Alors la bande de Stuart Murdoch nous fait entendre quelques singles, parmi lesquels ce Young and Stupid.
Everything is fine when you're young and stupid. Everything's divine when you're young and stupid. There's an easy
Young and Stupid à retrouver sur A Bit of Previous, le nouvel album de Belle et Sébastien qui sortira ce vendredi.
Après Bosch, c'est un nouveau héros de Michael Connelly qui va avoir droit à sa série, Mickey Haller, avocat à Los Angeles, à la manœuvre David E. Kelly, à qui on doit entre autres Ally McBeal et Big Little Lies, et le titre de la série est La Défense Lincoln, voilà pourquoi.
The Lincoln lawyer, that what they call you?
Some do, yes.
Why?
They worked out of my car.
But that's not why you're here. Jerry Vincent left you his practice, including the Trevor Elliott trial.
It's that guy who killed his wife and her boyfriend.
Allegedly.
Checked out well. High performing trial lawyer, much better than Jerry, until you went off the deep end.
Un avocat qui prépare ses dossiers à l'arrière de sa Lincoln Continental, la défense Lincoln avec Manuel Garcia Rulfo et Neve Campbell. Ce sera le 13 mai sur Netflix.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine Decaune.
Et Charline Roux. Bien sûr. Et nous sommes aujourd'hui avec Irvine Welsh, que nous recevons pour parler du coup du siècle, son dernier roman traduit au Diable Vauvert par l'excellent Denis Gallos. Je l'aurais déjà dit plusieurs fois quand même dans cette émission. Alors il y a dans le coup du siècle, comme toujours chez vous, un plaisir absolument jouissif à exploser en vol tous les tabous, les idées reçues, jusqu'à la nécrophilie dans celui-ci. Et la manière dont vous présentez vos personnages est toujours d'une drôlerie absolument invraisemblable. Il vous aura pas échappé, mon cher Irvine, que l'on vit une époque où on finit par faire gaffe à ce qu'on dit au prétexte de ne blesser personne. Est-ce que vous, ça vous excite encore plus d'une certaine manière ?
Oh, it's fantastic. I mean, it's like I for me, it's like kind of it adds an intensity to the day because
en fait, ça donne de l'intensité à ma vie. Rien que le fait d'ouvrir ma gueule ou de décrire telle ou telle phrase, ça peut nuire à quelqu'un, ça peut faire du mal, ça peut blesser quelqu'un. Et moi, ça, je trouve ça génial. Bon, évidemment, on veut pas faire ça, mais on veut pouvoir s'exprimer. On veut décrire les personnages que l'on veut dans son roman. Donc, c'est intéressant.
You're always learning. You're all, you know, the world is changing around
constamment.
You.
Le monde change en permanence. Soit on résiste au changement, soit on suit le changement, soit on fait avec. Donc, j'ai un lecteur ou une lectrice transgenre qui a fait un rapport de 5 pages sur mon livre. Et je me suis dit, oh là, ça va être horrible. Mais au bout du compte, c'était très intéressant. Et elle lise très sophistiquée, très sachante. Et en fait, ça m'a permis d'améliorer le livre. C'était justement que je le termine. Hein. Et c'était très, très utile, ça. Tout ça pour dire que les choses évoluent très vite. Et donc, il est du devoir des écrivains de suivre l'évolution du monde. Et parfois, on n'y arrive pas seul. Difficile d'assimiler toutes ces mutations rapidement. La langue, par exemple, la façon dont on parle des choses, la façon dont on traite la sexualité, les questions de genre, la fin du capitalisme, les choses qu'il faut reconstruire. Je crois que l'époque est très, très stimulante, très motivante. Il faut suivre, il faut s'adapter. Alors, bien évidemment, il y a plein de conneries qui vont sortir du système, hein. Mais il y a plein de bonnes choses. Et donc, il faut être à l'écoute, il faut avoir un œil critique, il faut savoir saisir ce qu'il y a de bien. Mais évidemment, il faut faire de son autocritique.
Parmi les personnages hauts en couleur et en cheveux croisés par Terry, le héros du coup du siècle, il y a Ronnie Checker, richissime américain grâce à quelques fructueux placements immobiliers, golfeur et personnage de télé-réalité, une émission dans laquelle il vire en direct les moins bons collaborateurs. Évidemment, toute ressemblance avec un personnage réel amateur de cabine à UV est purement fortuite, Irvine Welsh.
Right, yeah, now who does it sound like?
Oui, à qui est-ce que ça ressemble, votre description?
It was funny because you know the book was actually written.
Le livre, je l'ai écrit avant que Trump n'occupe la Maison Blanche. Avant qu'il annonce ses ambitions politiques, même.
And it was just a matter for me. It was like thinking, who
moi,
can I think is the biggest owl?
Quel est le plus gros trou du cul aux États-Unis? Voyons voir.
It's a crowded field, but you know, one guy did emerge.
Il y en a un qui sort de l'eau quand même.
Persona.
Alors, ce personnage, je vais m'en servir. Et voilà.
Vous déclariez il y a quelques années, les journalistes et les politiques extraient des mensonges de la vérité, les romanciers doivent faire l'inverse. Est-ce que vous prépariez donc déjà le personnage de Ronnie Checker?
Yeah, I mean, I think that that's the whole thing about. About fiction writing as opposed to journalism. I mean,
quand on écrit de la fiction, et non des articles de journaux, on se sert des vérités. Alors que dans le journalisme, on essaye de trier les choses, extraire le bon grain de l'ivraie. Quand on est journaliste, on fait un reportage sur Trump, par exemple, pas très intéressant, alors qu'une satire d'un caractère plus vrai que nature, c'est quand même mieux, voyez. Donc la construction d'un trou du cul, c'est plus intéressant que ne l'est le trou du cul dans la réalité.
Alors, quand le livre a été écrit, Irvin Welsh, Trump était encore d'une brûlante actualité, évidemment, et vous avez eu cette phrase que j'adore littéralement, que j'ai eu envie de faire encadrer chez moi. Causer politique par les temps qui courent, c'est comme réarranger les chaises longues sur le pont du Titanic. Est-ce que ça fait de vous un indécrottable optimiste?
Ce
qu'on appelle la politique, c'est de l'économie, de la finance. Mais en fait, c'est quoi? C'est l'enrichissement d'un nombre restreint de personnes. C'est la mort de la culture, l'éradication de la vie sociale et culturelle. Mais il y a du bon là-dedans quand même, parce que ça signifie que la communauté, les relations en communauté sont plus importantes. Qu'est-ce qui compte? Se nourrir, s'éduquer et ainsi de suite. Et on n'est pas là pour nourrir les super riches. À mesure que les citoyens ne sont que des individus, l'État devient de moins en moins pertinent pour la vie des citoyens. Vous voyez, c'est une espèce d'aller-retour. Et on regarde de façon plus intéressée la solidarité dans les communautés et ainsi de suite. Alors vous avez les structures économiques, financières, étatiques et ainsi de suite. Et donc on recherche autre chose, même pour la culture d'ailleurs. Et ça c'est naturel, c'est un processus naturel qui est à l'œuvre. Il y a le capital qui est concentré dans une espèce d'étoile noire et qui est en train de s'auto-consumer.
Merci pour cette consultation, mon cher Irvin. Diniz, puisque je vous tiens sous la main, vous êtes donc le traducteur, Diniz Gallos, de ce Coup du siècle et de six autres, enfin six au total, de bouquins d'Irvin Welsh. Quand vous traduisez une langue comme celle d'Irvin Welsh, est-ce que vous prenez en référence, j'ai en tête San Antonio et son personnage de Beru notamment, est-ce que vous vous appuyez sur des exemples comme ça ou est-ce que au contraire vous vous laissez totalement emporter?
Alors, pour Irvin, il y a quelque chose qui m'a considérablement aidé pour, alors pas pour comprendre, parce qu'il y a toujours ce double mouvement dans le travail de traduction, de d'abord comprendre ce qu'on a dans les mains, et après essayer de trouver des équivalents en français. Et il se trouve que, par un heureux hasard, les centres d'intérêt stylistique dans l'écriture d'Irvin sont très proches des miens, vu que j'ai aussi la casquette d'auteur.
J'y arrivais magnifiquement.
Merci beaucoup.
Et Irvin Welsh, on continue de parler de vous à raison comme du Balzac des déclassés écossais. On vous sait amateur des romancières Jane Austen et George Eliot. Est-ce qu'on peut vous envisager un peu comme le chaînon manquant entre ces trois-là? Et dans ce cas, qui serait le Irvin Welsh des nantis?
Yeah, I mean, I think the Irvin Welsh of the rich, in some ways, would be even more.
ce serait Evelyn
Waugh.
Waugh, c'est un des premiers écrivains qui m'a inspiré. Écrivain d'un milieu social complètement différent du mien. Mais Evelyn Waugh décrit ses personnages dans la lumière, l'obscurité, la joie, la tristesse, Schadenfreude. Et donc, allez, Evelyn Waugh, l'Irvine Welsh des Nantis.
Bien, Irvine Welsh, Dinis Gallos, je rappelle que Le Coup du siècle, votre roman Irvine, est paru au Diable Vauvert et que Crime est disponible en poche dans la collection Diable Vauvert.
Et que la série télé adaptée de Crime arrive bientôt sur Polar Plus en France.
Très bien, oh là là, mais que de choses. Bon, vous restez avec nous car dans la suite de Pop, nous allons parler de...
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanni.
A celebrity is throwing away his hard-earned cash. Everyone pay attention to me.
D'Almodovar, de Bojack Horseman, de Caius Blatter, mais aussi de Jenny Flagon. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter ensemble un morceau français néanmoins assez welchien. C'est le groupe Pigalle, dans la salle du Bar Tabac de la rue des Martyrs.
Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y a les filles de nuit qui attendent le jour en vendant du plaisir. Y a les ivrognes qui s'épanchent au bar, qui glissent lentement le long du comptoir par terre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, le patron a un flingue pour l'ingénu qu'en voudrait à la tirelire. Dans les chiottes, les mots gravés sur les murs parlent de sexe géant, d'amour et d'ordure, ensemble. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar, tabac de la rue des Martyrs, certains soirs tout à coup dans un coin on s'arrête de rire. Et quand brusquement les larmes sortent, tout le monde dégage, se jette sur la porte en verre. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs, y'a des seringues vidées goulûment dans des bras sans avenir. Ici la dope c'est à la poignée, les petites cuillères servent que rarement pour le café. Ici, chacun doucement oublie l'ombre d'une vie passée d'une femme de décombre. Dans ce cliché funèbre, on cherche l'oubli d'un parfum, d'une voix. On éteint l'impact encore brûlant de lèvres entrouvertes, humides et douces. Dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs.
Et oui, c'était bien sûr Pigalle dans la salle du bar tabac de la rue des Martyrs. Vous écoutez Pop et nous sommes en compagnie d'Irvine Welsh aujourd'hui et c'est le moment de prendre des conseils d'un maître puisque c'est l'heure de sa pop-list. Irvine, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique, une série que vous appréciez en ce moment. Le livre que vous nous conseillez, c'est Ex de Jenny Fagon. Charline, what is it about?
4 décembre 1591, lors de ce qui devrait être la dernière nuit de sa vie, la sorcière condamnée Gillis Duncan reçoit une mystérieuse visite, celle d'Iris, qui lui dit venir d'un futur dans lequel les femmes sont toujours poursuivies pour ce qu'elles sont et pour ce qu'elles croient.
Alors Jenny Fagon, c'est une autrice encensée dès son premier roman, notamment par le New York Times. Vous semblez en penser beaucoup de bien, vous aussi.
Yeah, she's pretty amazing.
Ah ouais, elle est étonnante.
She has an incredible range as well.
Elle a une gamme d'écriture très étendue.
And, she's written three novels now.
Trois romans.
Very different.
Trois romans différents.
Kind of, classically brilliant novels in their own way.
Qui sont des romans en fait assez classiques. Maintenant, le dernier date, c'est un tour de force. C'est un livre très important au point de vue du volume. Le quatrième qu'elle a écrit, c'est un livre de fiction qui repose sur un fait divers. L'exécution de la dernière sorcière en Écosse. Donc un fait divers historique, encore une œuvre formidable.
Was that impressed?
Elle m'impressionne beaucoup. Je lui ai demandé
She's going to do adapt the Blade Artist, which is
elle va adapter the Blade Artist. Elle adapte ça à l'écran. Et je suis ravi qu'elle participe à ce projet. Quelle chance que de travailler avec elle.
L'artiste au couteau va être adapté en série ou en film?
Six-part series.
Série, six épisodes.
Votre film du moment, ma chère Irvine, c'est Parallel Mothers, Madres Paralelas d'Almodovar.
Ne regardez pas, j'ai fait allemand élevé. Hein,
bon, Charline, pourquoi sont-elles parallèles, ces mères?
Deux femmes, Janice et Anna, se rencontrent dans une chambre d'hôpital alors qu'elles sont sur le point d'accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes par accident. Janice, la plus âgée, n'a aucun regret durant les heures qui précèdent l'accouchement. Elle est folle de joie. Anna, en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords et traumatisée.
A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Janice, pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ya está aquí.
Irvine Welsh, qu'est-ce qui vous touche dans ce film en particulier ou dans le cinéma d'Almodovar de manière plus générale?
J'aime la façon dont il dépeint les femmes.
Very bright and so you know his color palette's very bright.
And I like the way it, une palette de couleurs très étendue. J'adore les décors chez Almodovar. C'est incroyablement espagnol. Au-delà de ça, les femmes jouent des rôles bourrés d'émotions.
A kind of shrinking violet. Everybody's just that.
Vous voyez, c'est pas des femmes pâles. Non, elles sont hyper réalistes. Sinon, il y avait femmes au bord de la crise de nerfs aussi.
He has that kind of.
Almodovar.
I think it's maybe it's the he has that empathy that a lot of gay men have for women. He has that sort of.
Très fort envers les femmes, comme pas mal d'hommes gays d'ailleurs.
He has that kind of. That performative kind of hyper reality.
Au sens de cette hyper réalité performative, il fait passer ça à l'écran dans sa peinture des femmes. Almodovar chope un aspect féminin qui est insaisissable pour les écrivains, pour pas mal d'écrivains hétéros.
Alors, j'ai un livre, j'ai un film, il me faut maintenant une série. Votre série préférée en ce moment, c'est BoJack Horseman, le délire déprimé d'une star à tête de poney.
Monsieur Homme-Cheval est alcoolique et déprimé. Il traîne son mal-être dans sa garçonnière hollywoodienne. Parmi ses visiteurs, Diane Nguyen, prête-plume en charge de son autobiographie, Princess Caroline, ex-petite amie et agent attitré, Dot Chavez, colocataire intrusif. On croise aussi Mr. Peanut Butter, rival et héros toujours populaire d'une sitcom.
Look this way, news media! A celebrity is throwing away his hard-earned cash! Everyone pay attention to me!
It's only $1 bills, folks. Don't bother.
Well, nothing to see here, I guess.
Ooh, ooh, oh! Jesus Christ! My ankle!
Oh my God! American singer-songwriter Beyoncé is hurt! Somebody help her!
Ring the alarm! Irreplaceable pop icon and independent woman Beyoncé has been injured. What happened?
Well, Tom, I'm being told she fell on all the single dollars.
All the single dollars?
All the single dollars.
BoJack Horseman et Donald Trump, donc deux sujets américains qui vous amusent, Irvine Welsh, peut-être pas pour les mêmes raisons, bien sûr.
Yeah, I mean, this is it's one of these great kind of satires of Hollywood.
Oui, c'est une satire de Hollywood.
I think you know, Americans they get away with a lot when they do cartoons.
Les Américains peuvent se permettre à peu près n'importe quoi quand ils font des animations. South Park, par exemple. Ça, c'est les Simpsons, évidemment. On arrive à faire des choses incroyables, mais South Park, c'est très raffiné. C'est très fin. Beavis and Butthead, c'est très chouette aussi. Même chose pour BoJack Horseman. On peut traiter de choses que l'on ne peut pas traiter autrement aux États-Unis. Qu'est-ce que c'est obscur? Ce sont des thèmes très sombres qui sont traités. La maladie mentale, le deuil, l'abus sexuel, la violence et la folie hollywoodienne. Donc ça vous donne quelque chose de... très fin, très nuancé. Donc, ce sont des personnages d'animaux, hein, dans BoJack Horseman. Et c'est très bizarre de voir ces animaux se comporter de la sorte. Mais moi, j'adore cette série. Formidable.
bien, finissons en musique votre pop-list. Vous avez choisi Klaus Blatter. C'est un mythe assez obscur de la house music que la plupart de ses fans croyaient mort, à vrai dire, tant il avait disparu des radars jusqu'à ces deux dernières années. C'est le DJ qui est en vous, qui est tellement séduit par Klaus Blatter.
Yeah, I think so. I mean,
oui, ça doit être ça, oui.
I think, yeah, I mean, a kind of... I like sort of tech, you know. I like techno. I DJ
techno
all over the place.
Techno, and DJ, tout ça, j'aime bien.
I like the music of Klaus Blatter.
La musique de Klaus Blatter, j'aime bien. Il se prend pas au sérieux.
It's, you know, it's pure acid house. It's pure kind of 303.
C'est la techno de la house. Libéré, j'aime beaucoup.
Et ben on va tous se lever quelques instants pour danser sur les mix de Klaus Blatter. Ça s'appelle Space Girl. Klaus Blatter, Space Girls, c'était le choix d'Irvine Welsh, notre invité aujourd'hui. Merci Irvine Welsh d'être passé. nous dire bonjour.
Oh, thank you so much. Yes.
Je rappelle que vos livres Crime et Le coup du siècle sont disponibles en français, respectivement aux Poches du Diable et au Diable Vauvert, et que nous recommandons bien plus que chaleureusement non seulement ces deux ouvrages, mais vos œuvres complètes. Merci également à Denis Gallos, votre traducteur, de nous avoir éclairé de ses lumières, et à Xavier Combes, votre interprète aujourd'hui. Merci Charline.
Merci à vous.
À demain, et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Sofiane Aktib qui était à la technique aujourd'hui.